C'est un personnage absolument extraordinaire que Laurent de Brindisi. Vous direz que je dis souvent que ce sont des personnages extraordinaires, mais évidemment que souvent, ces hommes ou ces femmes qui ont été canonisés ou acclamés par l'histoire ont eu des personnalités absolument phénoménales. Et c'est le cas aujourd'hui avec Saint Laurent de Brindisi, qui était italien. Un capucin italien. Très illustre. Au point qu'il a été nommé docteur de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur de l'Église? Pour ceux qui l'ignorent, peu de gens ont été nommés docteur de l'Église, c'est-à-dire que leur doctrine, leur enseignement, leur façon de transmettre ce qu'on appelle le dépôt révélé, c'est-à-dire ce que Dieu nous a révélé, et qui est dans la Bible et dans la tradition, puisque la foi chrétienne des grandes églises, comme l'église d'Occident, l'église catholique, l'église anglicane aussi, et l'église luthérienne, etc., les grandes églises et les grandes églises orientales, orthodoxes ou arméniennes, etc., coptes, sont établies sur la Bible et la tradition. Or, Laurent de Brindisi, vous verrez, est un homme absolument étonnant. Il est mort en 1619. Mais c'est une vie riche, mouvementée. Même qu'on pourrait rêver d'un film, qui serait fait sur lui. Bon, on y verrait quoi? D'abord une cellule très austère. Une vraie cellule de capucin. Vous avez peut-être déjà entendu l'abbé Pierre, dont il est question aujourd'hui dans les nouvelles. Il est à Sarajevo, etc. Cet abbé Pierre qui fait tant parler de lui était capucin autrefois. Il a raconté comment, en entrant chez les capucins, il a vécu dans une austérité absolument étonnante, qui était presque médiévale et qui existait encore. Je ne sais pas comment les capucins vivent leur postulat, leur noviciat et leurs premières années de vie monastique, mais c'était absolument étonnant de l'entendre parler de ça. Or, donc, on le verrait dans un film, dans une cellule austère, mais aussi dans des intérieurs princiers, car il a fréquenté les princes et les rois et les empereurs. On le verrait en prédication en chair. On le verrait dans des mêlées de hussards et de ce qu'on appelle les janissaires, c'est-à-dire les soldats musulmans. On le verrait dans des décharges d'artillerie, comme on en fait de splendides depuis quelques années au cinéma, ces grands combats. Il est né donc à, on dit souvent à Brindes en français, B-R-I-N-D-E-S, mais c'est mieux de dire Brindisi, qui est le vrai nom de cette ville italienne, petite ville importante, où est mort d'ailleurs Virgile, 19 ans avant Jésus-Christ, oui, 19 ans avant Jésus-Christ, Virgile est mort là, ce grand auteur romain, n'est-ce pas? Et alors, Brindisi est situé, si vous voulez, au talon de la botte italienne. Vous savez, quand on regarde la carte d'Italie, ça fait comme une grande botte que portent aujourd'hui certaines femmes. Eh bien, ce serait au talon de la botte qui est Brindisi. Et c'était en juillet 1559 qu'il est né. Il y a donc 436 ans. Trois semaines après sa naissance, le vieux pape Paul IV, qui était un pape sévère, c'était un champion très ferme de la réforme catholique. 1559, ça vous dit quelque chose, hein? C'est, disons, 25 ans ou 30 ans ou 35 ans après la réforme protestante et le schisme ou la séparation de l'Église d'Angleterre de l'Église de Rome. On a fait une contre-réforme, c'est-à-dire réformer l'Église catholique. Et ce pape Paul IV a été très ferme là-dessus. Et quand il est mort à Rome, trois semaines après la naissance de Laurent de Brindisi, la populace à Rome, c'est curieux, hein, s'est soulevée de joie d'être débarrassée d'un pape aussi sévère. Même, ils ont jeté par terre la statue qu'il y avait de ce pape. Et on pourrait dire que notre nouveau-né aurait en lui le zèle de ce pape réformateur, mais d'une façon beaucoup plus charitable et plus souple. On l'a baptisé, savez-vous de quel nom? C'est absolument étonnant. Il a été baptisé Jules César. Alors, son père est mort, et César est entré chez les franciscains conventuels. Il y est resté jusqu'à l'âge de 14 ans. On entrait très jeune, comme je vous ai déjà dit, en religion. Hein. Mais les Turcs, musulmans, menaçaient Brindisi dans le sud de l'Italie. Et ce jeune César, avec sa mère, s'est réfugié dans le nord de l'Italie, à Venise, sur l'Adriatique. Pas loin, au fond, en face, presque de la Yougoslavie, là, puis de Medjugorje, où probablement quelques-uns d'entre vous vous êtes allés. Et un oncle, à lui, a veillé à sa formation. Notre adolescent, Jules César, était hanté par l'idéal franciscain. Alors, le 17 février 1575, il s'est engagé chez les Capucins sous le nom de Laurent, d'où son nom, Laurent de Brindisi et Capucin. Il est entré à Vérone. Il s'était entraîné à la pénitence. Et les pénitences, dans ce temps-là, c'est absolument étonnant. Mais vous savez que les pénitences, ça durait encore, il n'y a pas si longtemps, de façon assez dure. Et probablement qu'il doit y en avoir, qui pratiquent encore dans des fonds de monastères, des pénitences très dures. Et pourquoi pas, après tout? Chacun est libre. Pourvu que ce ne soit pas de façon masochiste et de façon désordonnée, et que ça soit fait sous la conduite d'un directeur spirituel intelligent. Donc, il portait des chaînes de fer. Il jeûnait 3 jours par semaine, avec seulement du pain et un peu de laitue. Il méditait de façon assidue tous les jours sur les souffrances de Jésus. On peut méditer sur les souffrances de Jésus, moi-même je le fais depuis très longtemps. Il n'y a rien de mal à ça. On ne médite pas sur les souffrances de Jésus de façon pénible. On médite de façon à découvrir tout l'amour que Jésus a eu pour nous et qu'il a toujours. Lui qui est ressuscité et qui est Dieu lui-même. Et alors, il a été un novice modeste, grave, aimable même. On l'a envoyé étudier à Padoue et il apprenait des langues à ses moments de loisir. Il a appris le français, l'allemand, le grec. Et il a appris aussi le syriaque, oui, le syriaque, et l'hébreu. Il pouvait prêcher en hébreu. C'était incroyable. Il a prêché en français, en allemand, en grec, etc. D'ailleurs, on le fait prêcher même avant son sacerdoce, ce qui était exceptionnel, c'était très, très rare. Hein? Il disait toujours que la Bible était la grande source de tout bon prédicateur. Et il a tellement étudié la Bible qu'il pouvait au besoin discuter le texte hébreu avec des protestants ou avec des juifs. Et la morale et le dogme, c'est-à-dire les vérités de foi de l'Écriture, de la Bible, passaient comme des traits de feu dans ses prédications. Il savait enflammer les âmes. Hein. Il avait du caractère et du nerf. Oh, si on n'avait plus de prédicateurs comme ça, mon Dieu, que ça nous ferait donc du bien à nous, les laïcs. Et c'est ainsi qu'il a prêché 2 carêmes à Venise. Faut pas oublier que Venise, c'était une des capitales du carnaval, hein? Comme Québec, peut-être, pour la ville de Québec, pour nous, ici. Et même Montréal devient une ville de carnaval avec tous les festivals, hein? Et donc, il y avait beaucoup de bonnes personnes pour écouter son enseignement, puis essayer de changer de vie. Et on peut pas évaluer le bien qu'il a fait à Venise. Il a fait énormément de bien. Même chez des gens qui étaient contre lui, qui venaient de l'entendre pour se moquer un peu, et qui se convertissaient et qui comprenaient tout à coup ce qu'il voulait vraiment dire, tellement il parlait avec sincérité et profondeur et conviction. Car tout ça venait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la méditation assidue des souffrances du Christ. Ça venait aussi du jeûne, de la pénitence et de la prière profonde. Une fois prêtre, car ce dont je vous parlais, là, les prédications de carême, il n'était pas prêtre encore. Mais là, une fois prêtre, les travaux sont devenus encore plus forts, plus écrasants. Et ce furent des missions par toute l'Europe. Là, on l'envoyait en mission, c'est-à-dire à prêcher un peu partout. En Hongrie, en Bohême, imaginez, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en France, en Espagne et au Portugal. C'est là qu'il va mourir, d'ailleurs. Laurent de Brindisi était vraiment tellement dévoué, tellement admirable, que même les jésuites ont voulu collaborer avec lui. Je dis ça en blague, là. Les capucins, il faut le savoir, à cette époque, ont travaillé à convertir les âmes dans l'Europe centrale, qui était ravagée à l'époque par toutes sortes de tendances au libre examen et au libre examen donc de l'écriture qu'enseignaient les protestants. Je comprends jusqu'à un certain point les protestants qui réagissaient contre des enseignements qui parfois pouvaient sembler étranges. Il y a bien des choses étranges dans l'Église catholique. Mais je maintiens toujours, moi c'est mon point de vue enfin, que mieux vaut faire une réforme à l'intérieur que de se séparer. Car Jésus souhaite tellement notre unité. Mais il fallait un animateur spirituel, n'est-ce pas, à la lutte contre les Turcs musulmans qui harcelaient toutes les forces de l'Empire. Alors le pape Clément VIII a envoyé à l'empereur Rodolphe II notre Laurent de Brindisi, ce capucin. Bien sûr et bien convaincu que Laurent de Brindisi voudrait bien une armée. Et en effet, il a été le bras droit du prince Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, qui a remporté cette fameuse victoire éclatante de 1601 sur l'islam en Hongrie. Et pourtant, les chrétiens se battaient à 1 contre 5 dans cette fameuse bataille. C'est terrible ces batailles dont on parle, hein, entre des musulmans et des catholiques, entre des chrétiens souvent aussi. Que c'est triste. Et on peut se réjouir aujourd'hui de penser que, même si ça existe jusqu'à un certain point, encore un peu aujourd'hui, ça va beaucoup mieux que ça n'a jamais été, je crois, quand on regarde bien l'histoire. Quand on écoute Saint François de Sales, dans l'oraison funèbre qu'il a faite de ce Mercœur, le duc de Mercœur dont je viens de vous parler, qu'il a prêché à Notre-Dame de Paris, le 27 avril 1602, il parle des Capucins. Il dit que ce Mercœur, ce duc de Mercœur, avait toujours en son armée des pères Capucins, lesquels, portant une grande croix, non seulement animaient les soldats, mais aussi, après la confession générale que tout catholique faisait en signe de contrition, leur donnait la bénédiction. Mais surtout, c'était une belle chose de voir ce général, duc de Mercœur, exhorter ses capitaines à la constance, leur remontrer que s'ils mouraient, ce serait avec le mérite du martyr, et parler à chacun en sa propre langue, français, allemand, italien. Alors quand on lit ça dans les œuvres de Saint François de Sales, on dit tiens, 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 s'il parlait dans toutes ces langues, là ça doit être Laurent de Brindisi, hein, qui était l'âme de cette charité en toutes les langues. Une charité polyglotte, je pourrais dire. C'est une aumônier militaire incomparable pour des troupes qui venaient de différents pays. Et si Laurent de Brindisi excellait dans les missions militaires, il s'est employé aussi, avec des succès, bon, pas toujours les mêmes, là, à des négociations diplomatiques. C'était un grand diplomate. Et c'était très délicat à cette époque, comme ça l'est aujourd'hui, mais c'était particulièrement délicat parce que les carnages surgissaient assez facilement. D'ailleurs, le pape et l'empereur l'ont envoyé auprès du roi d'Espagne, et son voyage à Madrid lui a valu bien des désagréments, même de l'hostilité royale. Et ce pape, Paul V, l'a utilisé de même en Allemagne, en Bavière, en Italie. Le roi catholique d'Espagne était en guerre avec le duc de Savoie, parce que l'Espagne griffait, on peut dire, l'Italie. C'était une lutte fratricide, voyez-vous, entre des catholiques là, italiens et espagnols. Mais Laurent a trouvé, est allé trouver le duc de Savoie, puis l'a amené à faire la paix sans guerre. Toujours humble et modeste, Laurent de Brindisi refusait les hommages. Dès 1587, ses qualités lui avaient valu un poste très envié dans l'administration de l'Ordre des Capucins, et c'est ainsi que de 1602 à 1605, il a eu l'honneur de le diriger. Mais cependant, au milieu des ovations, il demeurait, comme je vous ai dit, toujours simple et affable. Et la même chose quand on l'outrageait, puis même on le menaçait de mort, hein. C'était pas rare dans les pays où il se promenait, les pays qui ne partageaient pas sa foi. Alors, il repoussait les honneurs. Et même, il repoussait les petits plats qu'on lui offrait. Il couchait sur la dure, il se levait la nuit pour psalmodier. Puis son oraison, dit-on, allait jusqu'à l'extase. Il a eu la joie de fonder de nombreux couvents de capucins en Allemagne, en Autriche, en Moravie, au Tyrol. Et à 60 ans, bien, il est mort le 22 juillet. C'est aujourd'hui le 21, donc on l'honore le 21 juillet. Il est mort le 22 juillet 1619 à Lisbonne, où il était allé plaider auprès de Philippe III la cause des habitants de Naples qui étaient opprimés. Son corps a été transporté chez les franciscaines, les moniales franciscaines, de Villafranca del Vierzo, en Galicie. Et Laurent de Brindisi a été béatifié par Pie VI en 1783 et canonisé en 1881 par Léon XIII. Une parole que j'aime beaucoup qui est en deux lignes, seulement deux lignes. C'est sur la force de la parole divine, de la Bible, quoi. Souvent, on accuse les catholiques de n'avoir pas de respect pour la Bible. Seulement les protestants ont du respect pour la Bible. Eh bien, réjouissons-nous, enfin, voici un docteur de l'Église, un capucin, Laurent de Brindisi, donc mort en 1619, qui déclarait dans une homélie, « La parole divine, donc la Bible, la parole divine est lumière pour l'intelligence, feu pour la volonté, afin que l'homme puisse connaître Dieu et l'aimer. » C'est magnifique, ça résume très bien, je la répète. La parole divine est lumière pour l'intelligence, feu pour la volonté, afin que l'homme puisse connaître Dieu et l'aimer. Dans un sermon sur la Vierge Marie, et je termine là-dessus, il disait, ça va faire plaisir aux gens qui aiment beaucoup la Sainte Vierge, « Ne craignons pas, le culte que nous rendons à Marie ne fait aucun tort à celui que nous rendons au Christ. » Tout au contraire, il contribue à l'accroître et à l'intensifier. C'est aujourd'hui la fête d'une religieuse qui avait comme prénom Marie, la bienheureuse Marie-Mercedes Prat-y-Prat, P-R-A-T-Y, comme on met souvent chez les Espagnols, et ensuite Prat encore. Donc son père et sa mère s'appelaient Prat, P-R-A-T. Elle est née le 6 mars 1890 et elle a été canonisée le 29 avril 1990. Elle est décédée, elle, il n'y a pas tellement longtemps, en 1936 à Barcelone, le 22 juillet. Je lis un petit texte rédigé par Mgr Chimichella dans l'un de ses nombreux ouvrages sur les bienheureux et bienheureuses et sainte aussi de différentes années, ça c'est pour l'année 1990. Quand les ennemis de la foi veulent détruire toute influence religieuse dans un pays, ils s'attaquent en tout premier lieu à la famille et à l'école. La bienheureuse Marie-Mercedes Prat-y-Prat eut une mort identique à celle des glorieux martyrs de Turon parce qu'elle avait été jugée coupable du seul délit d'avoir enseigné le catéchisme aux enfants. C'était évidemment pendant la guerre civile espagnole. Son grand amour pour Dieu, dit-on au moment de sa canonisation, et pour son prochain, son grand amour pour Dieu et pour son prochain, la conduisirent à travailler pour l'apostolat de la catéchèse dans une école dominicale. Outre sa prudence, Marie-Mercedes se distingua par la force qu'elle employa pour faire sereinement face aux dangers et pour accepter la persécution. Elle manifesta surtout son grand amour envers le prochain en pardonnant généreusement ceux qui la fusillèrent. C'est aujourd'hui la fête aussi du bienheureux Alberic Crestitelli, c'est un nom difficile. C'est un missionnaire martyr qui est mort en 1900. C'est le quatrième de 11 enfants de Benjamin Crestitelli et de Digna Bruno. Il s'appelait Alberic. Il était baptisé peu de jours après sa naissance. Il est né le 30 juin 1863 dans la province d'Avellino en Italie. Son curé a remarqué sa piété puis lui a fait commencer des études. Il y a 15 ans, Alberic est entré au séminaire pontifical des Saint-Pierre et Paul pour les missions étrangères à Rome. Vous savez qu'il y a aussi un séminaire pour les missions étrangères ici à Montréal, à Pontvio. Et pendant ses études, il a eu la douleur de perdre son père et une sœur qui ont été tués dans un tremblement de terre. Puis finalement, il a été ordonné prêtre le 4 juin 1887. Et alors qu'il passait quelques jours dans sa famille, une épidémie de choléra s'est déclarée et avec la permission de ses supérieurs, bien, il est resté pour soigner les malades. Et son dévouement lui a valu la reconnaissance de tous et même une médaille du gouvernement italien. Il était jeune à l'époque. Hein. Il quitta furtivement donc la région où il était né. Au matin du 31 octobre, sa mère en larmes l'a recommandé à la Sainte Vierge. C'était 1887. Et après avoir eu l'honneur d'être reçu par le pape Léon XIII, il a quitté Rome le 2 avril 1888, tout jeune encore. Il s'est embarqué à Marseille, puis est arrivé là en Chine le 18 août. Ça a pris 4 mois et demi de voyage. Il a été désigné pour le vicariat apostolique de Shanxi, qu'il a parcouru assidûment, sans jamais se soucier de sa fatigue, ni de l'inconfort. Des endroits où il devait loger, c'était tout improvisé. Il était attentif seulement à entrer, le plus complètement possible, dans la mentalité des populations chinoises très pauvres qui lui étaient confiées. La misère était extrême, et Alberic Crestitelli, prêtre des missions étrangères, n'a pas craint de réclamer pour les chrétiens les mêmes distributions de riz que pour les païens. Il n'a pas cru que c'était étranger à son rôle d'étudier aussi les problèmes que posait la culture du riz. Et les missionnaires dans ce temps-là aussi pensaient, comme aujourd'hui, aux choses pratiques, la nourriture et ces choses-là pour aider le monde. Et ils pensaient qu'en s'intéressant à leurs problèmes importants, bien, il attirerait les Chinois à l'Évangile. Et son calcul était bien juste. Il a dû construire une église à Anyangpin pour les nouveaux chrétiens. En 1900, l'année de sa mort, le vicaire apostolique lui a demandé de se rendre dans la région de Ningxiang, qui n'avait pas été encore évangélisée. C'est là qu'il a été surpris par la révolte des boxers. Vous savez, les boxers, ce sont ces nationalistes chinois qui, épouvantés par la colonisation souvent bien matérialiste, en particulier des Anglais, se sont révoltés. Et pour ne pas compromettre ses amis, bien, Laurent Crestitelli s'est sauvé à Yanpingquan, où il a été reconnu. Alors, notre jeune prêtre a été frappé, torturé, traîné par les pieds sur la route. Et il a été finalement décapité près de Yantsepin le 21 juillet 1900, il y a exactement 95 ans aujourd'hui. Il avait 37 ans. Alberic Crestitelli a été béatifié par Pie XII le 18 février 1951. Mais est-ce que c'est difficile, le problème de Marie-Madeleine, je vous préviens? Il y en a qui risquent de ne pas être très contents de ce que disent les bénédictins de Paris dans leur immense ouvrage en 13 volumes. Et ce que disent d'ailleurs d'autres ouvrages que j'ai consultés au sujet de Marie-Madeleine. Parce qu'en fait, aujourd'hui, cette sainte, on ne la célèbre que depuis peut-être 1000 ans.
On dit de Sainte Marie-Madeleine, de laquelle notre Seigneur chassa 7 démons et qui mérita de voir la première, le Sauveur ressuscité. C'est dans le martyrologe romain. Alors, si on regarde plutôt les données évangéliques, les textes dans les évangiles, Marie, surnommée Madeleine, ça vient de Magdala sur la rive ouest, n'est-ce pas, du lac au nord de Tibériade, là. Eh bien, cette Marie, Madeleine, apparaît dans Luc, chapitre 8, verset 2. Et d'elle sont sortis 7 démons, n'est-ce pas? Le chiffre signifie une forte possession, presque une légion de démons, c'est pour ça qu'on dit 7. Hein. Rien n'indique que la Madeleine ait eu des mœurs légères. Elle fait partie d'un groupe de femmes guéries par Jésus, qui suivent leur bienfaiteur, puis qui l'assistent autant que possible, n'est-ce pas, avec un peu d'argent et de la nourriture. Et nous la retrouvons dans le public assez loin de la croix du calvaire. S'il faut se fier à Marc au chapitre 15, verset 40, et Matthieu au chapitre 27, avant l'aurore du dimanche de Pâques, là, elle revient au sépulcre, vous vous souvenez, avec des aromates là, pour embaumer. Puis elle court prévenir Pierre et Jean, en voyant la pierre tombale enlevée. Puis elle revient, et tout en larmes, elle se penche sur le tombeau. Puis là, elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis où avait été déposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et un ange lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Et elle répond, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » On pourrait répondre la même chose aujourd'hui. On a l'impression qu'on nous enlève le Christ, on ne sait pas où on le met. C'est terrible, la persécution contre le nom de Jésus aujourd'hui, contre sa personne. Alors, Marie Madeleine s'est retournée et elle voit un jardinier qui lui demande aussi, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Et elle répond, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Et Jésus lui dit, « Marie. » Elle le reconnaît à sa voix et s'écrie, « Rabouni », ce qui veut dire maître, en étreignant ses pieds. Et Jésus lui dit, « Ne t'attache pas ainsi à moi. « Voyons, je ne suis pas encore remonté vers mon père. Va plutôt chez mes frères et dis-leur, je vais remonter vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Alors Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle a rapporté ce qu'il lui avait dit. En somme, c'est tout pour Marie de Magdala. Hein? Alors si on passe à la pécheresse anonyme là, dans Saint-Luc au chapitre 7, c'est quelques versets, 14 versets, 1 ou 15, les versets 36 à 50. L'histoire nous raconte qu'un pharisien nommé Simon traite Jésus, puis survient une femme, une pécheresse de la ville. Elle a un vase de parfum. Se plaçant en arrière, là, et tout en pleurs, aux pieds de Jésus, elle se met à lui arroser les pieds de ses larmes, puis elle les essuie avec ses cheveux. Elle couvre ses pieds de baisers et elle les recouvre de parfums. Un digne pharisien se scandalise de ce qui se passe, puis de la condescendance de Jésus aussi. Alors Jésus répond à ces réflexions silencieuses par une parabole. Un créancier a 2 débiteurs. L'un doit beaucoup et l'autre peu. Il remet leur dette à tous deux. Évidemment, le plus reconnaissant est celui auquel il a remis le plus. L'application, bien, le pharisien a reçu Jésus froidement, sans ces marques de déférence qui font partie du cérémonial de l'hospitalité traditionnelle. Lavement des pieds, baiser, huile parfumée. Alors, quelle différence avec cette femme? Mais c'est pourquoi, dit Jésus, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Puis il dit à sa femme, « Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Et la scène est inoubliable. Ça a été peint et peint par des quantités d'artistes. Cette même était retenue par l'auteur de l'Imitation au livre 3. À la fin du chapitre 52, là, les trois derniers versets à peu près, oh, ben, je peux bien vous les lire, j'ai mon imitation ici. Il y a des gens qui seront un peu terrifiés de penser que j'ai une imitation, mais c'est comme ça. Alors voici, il est écrit, « C'est le délicieux parfum que vous permite de répandre sur vos pieds sacrés. » Là, il cite le psaume 1. « Car vous ne méprisez jamais un cœur contrit et humilié. » Et l'auteur de l'imitation, probablement Thomas Kempis, n'est-ce pas, ajoute « Là est le refuge, la fureur de l'ennemi. Là, le pécheur se réforme et se purifie de toutes les souillures qu'il a contractées au dehors. » Alors, la pécheresse dont il est question dans Luc chapitre 7, convertie, ceci de commun avec Marie, sœur de Lazare, qu'elle a recouvert Jésus de parfum. Voyons donc ce que disent les évangiles de cette Marie, sœur de Lazare. Dans les évangiles, on lit que passant par Béthanie, sur la pente orientale du mont des Oliviers, vous êtes probablement allé à Béthanie si vous êtes allé à Jérusalem, hein? Parce que c'est seulement 3 kilomètres de Jérusalem, ça se fait à pied très facilement. Il est entré chez une femme nommée Marthe, qui était une de ses fidèles, et Marthe avait une sœur, dit l'Évangile, une sœur qui s'appelait Marie, qui s'est assise au pied de Jésus pour l'écouter. Et Marthe était absorbée par toutes sortes de soins, de services, elle était à la cuisine, comme on dirait. Enfin, elle parle, elle se décide, elle dit « Seigneur, « cela t'est égal que ma sœur me laisse seule pour le service? Dis-lui donc de m'aider. » Et Jésus a répondu, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses, tandis qu'il en faut bien peu. Une seule suffit. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Vous savez que ce texte, quand on est dans un monastère, on lit ce texte les larmes aux yeux parce qu'on se reconnaît dans Marie assise aux pieds du Seigneur. Alors on retrouve donc les deux sœurs un peu plus tard dans le quasi-désespoir. Hein, leur frère Lazare est mort à Béthanie. C'est là qu'est la résurrection de Lazare. Hein, Saint Jean seul nous a raconté cet épisode. Il commence par préciser que Marie, c'est elle qui a recouvert d'huile parfumée les pieds de Jésus, qu'elle a essuyé avec ses cheveux. C'est écrit « celle qui oignit ». Oignit, oindre, ça vient du verbe « oindre », évidemment. Elle peut très bien, donc, ce texte-là, « celle qui oignit », se référer à cette onction que nous voyons peut-être plus loin quand il est question de celle qui a apporté des huiles au tombeau de Jésus. Alors, on n'est pas sûr, celle qui oignit, à quoi ça se réfère. Hein? De même que Judas est celui qui le trahit avant d'avoir perpétré son crime. On en parle, hein? Judas, celui qui le trahit. Mais il ne l'a pas encore trahi, mais on se réfère à un événement qui va arriver plus tard. C'est la même chose peut-être quand il parle de Marie, là. Bon, de toute façon, Lazare était mort depuis 4 jours quand Jésus est arrivé à Béthanie. On l'avait prévenu quand le malade vivait encore, mais en vain. Alors Marthe, qui est la maîtresse de maison, est venue au devant de Jésus et Marie était restée, elle, à la maison parmi les gens qui faisaient des visites de condoléances. Hein. Et Marthe, après avoir dit à Jésus sa confiance indéfectible, bien, elle est venue appeler Marie en lui disant tout bas, « Le maître est là, et il t'appelle. » Et aussitôt, Marie s'est levée, elle a quitté tout le monde, puis elle est venue vers lui. Elle est tombée à ses pieds, puis elle dit, « Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et elle redisait ce que Marthe venait de dire, ce qu'elles avaient répété devant le cher cadavre de leur frère, et elle pleurait. Jésus frémit, se troubla. Et devant le tombeau, c'est beau ça dans l'Évangile, on nous dit que Jésus a pleuré la perte de son ami. Il a pleuré avec Marthe et Marie. Jésus a pleuré. Hein? Je suis sûr qu'il a ri aussi. Il a souvent souri en tous les cas, mais je suis sûr qu'il a ri. Je ne vois pas Jésus incapable de rire. C'est un homme joyeux au fond. Alors frémissant de nouveau, il a fait ôter la pierre du tombeau de Lazare, puis il a crié, « Lazare, viens dehors !» Et le mort est apparu, debout, la face voilée, les pieds et les mains entravés de bandelettes funéraires. Et alors, sur l'ordre de Jésus, qui est maître de la mort, on a délié Lazare, et beaucoup de Juifs, venus pour accompagner Marie, ont cru en Jésus. C'est dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 11. Ça nous rappelle que les premiers chrétiens, 5 000, 10 000 peut-être, sont des Juifs. Notre religion est une religion qui doit la plus grande partie de sa foi au peuple juif. Et je crois qu'il est bon de remercier les Juifs quand on en rencontre. Savoir leur dire, ça peut les insulter, les blesser, mais il faut le faire par tendresse pour eux. Essayer de comprendre les Juifs. C'est pas facile, hein, mais de bien les comprendre. Marie, donc cette Marie, paraît une dernière fois la veille des rameaux dans un repas qui est donné à Béthanie chez Simon le lépreux. On trouve ça dans Marc, dans Matthieu, dans Saint-Jean. Lazare était là avec ses sœurs, puis Marthe dirigeait le service, encore une fois. Et Marie a pris une livre de parfum, du nard véritable, très cher. Elle l'a versé sur la tête, puis sur les pieds de Jésus. Elle les essuya ensuite avec ses cheveux, et Judas grogna. « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers qu'on aurait donné aux pauvres ?» Et Jésus a répondu, « Laissez-la, laissez-la. C'est en vue de ma sépulture qu'elle a conservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » La pécheresse pardonnée, donc, et aimante de Luc, semble différente de Marie, sœur de Lazare, car tout suggère que celle-ci fut toujours sage et jamais dévergondée. Au reste, les circonstances de l'action diffèrent, et Luc ne note pas que la Madeleine soit la même que la pécheresse, bien qu'il introduise dans son évangile après elle. D'ailleurs, dans un synaxaire, c'est-à-dire un très vieil écrit qui rapporte les vies des saints à Constantinople, donc ou à Istanbul aujourd'hui en Turquie, au creux même de l'Église orientale, de l'Église d'Orient, ce grand poumon de l'Église chrétienne, eh bien, c'est au 22 juillet qu'on lui consacre une longue notice dans laquelle on apprend qu'après l'ascension, elle serait venue rejoindre Saint Jean, l'évangéliste, à Éphèse. Et ce serait dans cette ville que les auteurs du Moyen-Âge, très très longtemps, il y a 1400 ans, 1500 ans, placent son tombeau. Bon, d'une part, c'est ça. Ça, c'est pour l'Église d'Orient. Pour l'Église d'Occident, c'est bien plus compliqué. Vous connaissez toutes sortes de légendes, déjà probablement, hein. Les débuts de la grande célébrité de Marie-Madeleine en Occident, bien, c'est très, très obscur. On voit dans un sermon de Saint-Odon, abbé de Cluny, mort en 943. Il se contente d'expliquer l'Évangile, puis ça a eu un énorme succès. Bon, on dit qu'au 10e siècle, peut-être au 11e siècle, par après, on commence à attribuer à Marie-Madeleine une vie de pénitente, analogue à celle de Marie l'Égyptienne, là, puis on trouve ses traces en Angleterre, en Allemagne, en France, etc. C'est très, très, très compliqué. Mais je voudrais vous parler de Vézelay, où on vénère Marie-Madeleine, parce que la basilique de Vézelay, qui est une des plus belles basiliques romanes au monde, est dédiée à Marie-Madeleine. C'est au 11e siècle qu'on voit apparaître donc ce fait nouveau. Et on dit qu'on sait où repose le corps de Marie-Madeleine, l'abbaye de Vézelay. Ça avait été fondé par Girard de Roussillon, n'est-ce pas, vers 860, et au début du 11e siècle, elle était en pleine décadence. Et alors, là, les moines de Cluny l'ont réformée sous la direction de l'abbé Geoffroy, installé en 1037. Puis dans un acte du pape, en 1050, mais Sainte Madeleine figure pour la première fois au nombre des patrons de l'abbaye, avec notre Seigneur, avec la Sainte Vierge, avec les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est au milieu donc du 11e siècle que se place le témoignage le plus ancien sur la présence des reliques de Marie-Madeleine à Vézelay. Mais on n'est pas obligé de croire ça.
De toute façon, ça a fait un énorme pèlerinage. Les gens venaient de partout. Moi-même, je suis allé à Vézelay en 1950. Il n'y avait pas grand monde qui allait là. On était 3-4 personnes, c'est tout. Aujourd'hui, c'est les foules. Mais c'est un magnifique endroit, hein, Vézelay. C'est là qu'a vécu François Hertel, qui s'est converti avant de mourir. Hein. François Hertel a vécu à Vézelay. J'étais allé le voir là dans sa maison. Il était là à l'époque. François Hertel, qui était un ancien prêtre, ancien jésuite, qui avait quitté l'Église et qui s'est converti avant de mourir, ici à Montréal, à l'hôpital Queen Elizabeth. Et alors, il fallait maintenir ce pèlerinage. Alors, on a inventé toutes sortes d'histoires, et puis, je ne veux pas tout vous raconter, ça c'est très compliqué. Il y a aussi la Sainte-Baume, hein, dans le sud de la France, en Provence. Hein. Puis il y a aussi le couvent de Saint-Maximin, où on prétend aussi avoir des restes de Sainte-Marie-Madeleine, ce fameux couvent des Dominicains. C'était des Bénédictins qui ont été là au début, en 1295, et les Dominicains les ont remplacés, et ils sont toujours là, j'espère, parce que c'est un immense couvent. Je me souviens d'être allé là et d'avoir vu des Dominicains de réputation mondiale, très grands savants et des cérémonies superbes. C'était extrêmement impressionnant. Puis il y a aussi les Saintes Marie de la Mer, hein. C'est là que les gens affluent de toutes parts pour vénérer encore Marie-Madeleine. Alors, on peut dire que on ne sait pas trop où est son corps. De toute façon, mieux vaut la prier, la vénérer et aller à la messe demain midi pour assister ou demain matin. Pour assister à la célébration de cette fête dans les églises catholiques, où la messe sera célébrée de façon grandiose et le chant d'ouverture d'ailleurs est très beau. Je vous le lis. À Marie-Madeleine, Jésus ressuscité a confié ce message. Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu. Et votre Dieu. Et la prière, c'est au début, la première prière, c'est Seigneur notre Dieu, ou Père, Seigneur Père, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils bien-aimé a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous, à sa prière et à son exemple, la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le contempler un jour dans ta gloire, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit. Pour les siècles des siècles, amen. Que c'est beau ces prières de notre liturgie. Que nos messes sont belles. Je voudrais vous dire un mot avant de vous quitter. Sur des saints anglais, j'aime bien ces saints anglais, qui ont été martyrisés par nos frères anglicans à l'époque où on ne s'entendait pas, mais souvent pour des raisons politiques, les dirigeants de l'Angleterre craignant des factions catholiques qui auraient pu permettre aux Espagnols ou aux Français de revenir en Angleterre. Et il ne faut pas en vouloir du tout aux Anglicans. Et vous verrez dans ce récit combien les Anglicans étaient très gentils pour les prêtres catholiques qu'ils allaient tuer. C'est très, très curieux. Et tout ça se fait dans une espèce de civilité qui est surprenante. Ce sont les bienheureux Philip Evans et John Lloyd. Lloyd, c'est deux L au début, L-L-O-Y-D. Ils ont été martyrisés en 1679. Ils ont été exécutés à Cardiff. C'est un jésuite puis un prêtre séculier. Le jésuite, Philip Evans, E-V-A-N-S, était né à Monmouth. C'est une ville jalon, là, en pays de Galles. Il parlait d'ailleurs le gallois. Et il est entré à 20 ans, en 1665, dans la Compagnie de Jésus, après avoir étudié en France à Saint-Omer. Il y a 30 ans, il était ordonné prêtre à Liège, en Belgique. Il a été envoyé dans le sud de son pays de Galles, et il fut bientôt connu. Mais les autorités fermaient les yeux, vous voyez, déjà ça commence. Les autorités ferment les yeux, ils savent qu'il est prêtre catholique. Ça va, il a l'air sympathique. C'est assez surprenant, hein. Mais il y a un pseudo-complot qui a été énoncé par un dénommé Titus Oates, O-A-T-E-S. Ça a fait un bruit énorme, ça a discuté. sorti des... ça a déchaîné des tas de violences antipapistes, comme on disait. Et en novembre 1678, il y a une récompense de 200 livres qui a été offerte pour celui qui livrerait ce jésuite, Philip Evans. Alors, il a été pris en décembre 1678, pas loin de son lieu de naissance, et il a refusé les serments qui auraient pu assurer sa sécurité. Il ne voulait pas faire serment au roi d'Angleterre comme au chef de l'Église. Il était interné seul dans un cachot souterrain du château de Cardiff. Et après 2 ou 3 semaines, il a reçu un compagnon, le particulier, l'autre, John Lloyd. C'était un homme du comté de Monmouth, lui aussi. Il venait du comté où on a beaucoup de moutons dans cette région. C'est assez beau, d'ailleurs. Et il avait assumé, en 1649, à Valladolid, en Espagne, la tâche de missionnaire en Grande-Bretagne. Et là, on l'avait dirigé sur son pays natal. Au bout de 5 mois, bien, les 2 prisonniers ont été envoyés pour être jugés. Et ça a été terrible, le jugement. On avait eu de la peine à trouver des témoignages contre eux. Puis enfin, finalement, un apostat, un pauvre diable, d'ailleurs, un pauvre homme sans instruction et dont l'esprit vacillait. Puis il y a eu 2 femmes un peu hystériques aussi qui ont déclaré faussement avoir vu le père Evans dire la messe. C'était pas vrai. Et on les ramenait en prison où ils ont été fort bien traités. Ils jouissaient même d'une certaine liberté. Écoutez ça, le 21 juillet 1679, on venait venu annoncer que l'exécution aurait lieu le lendemain, le 22 juillet. Là, le père Philip Evans jouait au tennis. Oui, il jouait au tennis, imaginez, en prison. C'est assez surprenant, hein? Alors, il a tenu à finir sa partie avant de réintégrer sa cellule. C'est Charles Péguy, hein, qui admirait, comme bien d'autres, Louis de Gonzague, dont je vous ai parlé déjà, qui a la supposition, le disons, de comparaître en quelques instants devant, disait-on, le grand juge, c'est-à-dire devant Dieu, déclarait, Louis de Gonzague, qu'il continuerait à jouer à la balle aux chasseurs, puisque c'était alors le temps de la récréation. Alors, Evans, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a employé ses dernières heures à jouer de la harpe, puis à causer avec les nombreuses personnes qui venaient le saluer une dernière fois. Il était en prison, les Anglicans permettaient ça, que ce prêtre catholique jésuite reçoive dans sa prison du monde, gentiment. Je sais pas s'il y avait du thé à leur offrir, je ne serais pas surpris. S'ils en buvaient déjà à l'époque. Et puis, Evans donc est mort le premier, après avoir parlé au peuple en gallois et en anglais. Puis il a dit au particulier, « Adieu, John Lloyd. Adieu, monsieur l'abbé. Mais pour peu de temps, car nous nous retrouverons bientôt. » Il y a un petit peu d'humour là-dedans, c'est très anglais. Et Lloyd, l'abbé Lloyd, lui, n'a adressé que quelques mots à l'assistance. Car, dit-il, et c'est plein d'humour, « Je n'ose pas parler. » Je n'ai jamais été un bon orateur de mon vivant. De mon vivant. C'est mourir vraiment le sourire aux lèvres. Et tous deux, ce jésuite et ce particulier, ont été coupés en morceaux après avoir été pendus. Curieux, hein? Que les mœurs de cette époque sont troublants. D'une part, l'accueil, la gentillesse, une espèce de bienveillance, et en même temps, on exécute les lois qui sont très durs, pendaison et les corps coupés en morceaux. Ils ont été béatifiés tous les deux avec de nombreux autres martyrs anglais en 1929.